Alors, frères et sœurs, j'ai eu beaucoup de joie à préparer ce message. J'ai eu plus de temps aussi, et le danger avec ces deux paramètres, c'est d'être un peu long. Mais je vais essayer de me tenir au timing, il est déjà tard. J'espère que vous allez arriver à garder suffisamment d'attention dans cette fin de matinée. Alors, le passage que je vous invite à parcourir ensemble, c'est le passage qui fait directement suite à celui dont je vous avais parlé la dernière fois. Nous sommes donc en Marc 5, chapitre versets 1 à 20. Il s'agit donc d'un texte particulièrement remuant, et je le lis avec vous. Ils arrivèrent, donc Jésus et ses disciples, arrivèrent de l'autre côté de la mer au pays des Géraséniens. Comme ils descendaient de la barque, un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais ils avaient rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. D'une voix forte, il crie : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Il l'interrogeait : « Quel est ton nom ? » Il lui répond : Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Or il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant : « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et ils sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque, assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu le démon Légion. Ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : Va dans ta maison auprès des tiens, et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. L'homme s'en alla, et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Alors un texte pareil se passe d'introduction, hein, c'est suffisamment d'action pour que nous soyons accrochés tout au long du récit. Je vous rappelle quand même que dans le passage précédent, donc en Marc 4, versets 35 à 42, on avait vu que Jésus, après avoir enseigné la foule, il a poussé ses disciples à se séparer de la foule et à passer sur l'autre rive. L'autre rive donc de la mer de Galilée ou du lac de Tibériade, on l'appelle comme on veut. La traversée a été perturbée par une violente tempête dans laquelle Jésus a spectaculairement calmé les éléments en furie. Et aujourd'hui, notre embarcation termine donc sa traversée et arrive au pays des Géraséniens. Jésus n'a même pas le temps de poser un pied au sol qu'une personne repoussante se précipite vers lui. Alors ce récit vous rappelle peut-être celui de Marc 1, au verset 21-28, que j'avais eu l'occasion de commenter il y a quasiment un an. Il y a beaucoup de similitudes, mais aussi quelques différences notables. Donc dans Marc 1, 21-28, Jésus démarre son ministère, enseigne dans une synagogue et se trouve face à une personne possédée là aussi, qui interpelle. Alors parmi les différences entre les deux récits, il y a déjà le cadre. En Marc 1, la rencontre se fait dans la ville juive de Capharnaüm, à l'intérieur même de la synagogue. Dans la ville et dans la synagogue. Ici, on se trouve en extérieur, dans un endroit plutôt montagneux, sur la rive est de la mer de Galilée. Je vous ai remis. Ah non, je n'ai pas remis. Je croyais l'avoir remis. Donc, on est sur la rive est de la mer de Galilée. Et on ne sait pas précisément où se situe notre récit, mais le terme gérasénien, ça semble assez naturellement faire référence aux habitants de la ville de Gérasa, qui est donc une ville sur la rive est. Voilà. D'autre part, ce qui est important de noter, donc, il est fait mention, quelque chose assez inhabituel dans les textes de l'Évangile, d'un grand troupeau de porcs. Et puis, il est fait mention aussi de gens qui les gardent. Donc, ces indications placent clairement notre récit en territoire païen, c'est-à-dire en territoire non-juif, puisque le porc, c'est l'animal impur par excellence pour les juifs. Donc, on comprend que cette nouvelle rencontre avec un démoniaque se déroule dans un contexte en tout point opposé de la rencontre à Capharnaüm. Et on peut remarquer aussi qu'après ce récit, au verset 21 que je ne vous ai pas lu, Marc nous précise que Jésus retraversera le lac et se retrouvera face à l'un des chefs de la synagogue en Galilée. Donc ici, notre épisode, c'est vraiment une parenthèse en territoire païen. Vraiment une parenthèse en territoire païen. Et une autre différence majeure, donc avec la rencontre dans la synagogue précédente, ça concerne la puissance et la violence de cet esprit impur. Lors de la rencontre à Capharnaüm, on ne savait rien de l'esprit qui s'est manifesté. Il nous a rien dit. Mais l'auteur ici nous insiste sur la violence des manifestations démoniaques. Il habitait dans les tombeaux. Alors, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous mesurez bien le caractère macabre de la chose. Mais n'oubliez pas en plus que pour les juifs, côtoyer les morts, ça rend impur. Nous y reviendrons. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Donc on voit ici qu'il est doté d'une force hors du commun, littéralement surhumaine. Aucun humain n'arrive à le maîtriser. Et on peut supposer que, si on cherche à l'attacher, c'est qu'il cause vraisemblablement des dégâts. Au verset 5, « Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. » Nuit et jour, sans cesse, le pauvre homme n'a donc aucun repos. Et le fait qu'il erre ainsi hors des lieux habités le coupe a priori de toute relation humaine. On nous dit qu'il pousse des cris, il est probablement nu, puisque après sa guérison, sa délivrance, on nous dit qu'il est vêtu. Et il a donc perdu absolument toute dignité, toute humanité. L'homme possédé est devenu une bête qu'il faut attacher. Et puis enfin, le fait qu'il se blesse lui-même montre que l'esprit l'entraîne dans une logique autodestructrice, mortifère. Alors il est frappant, une fois encore, de constater que l'esprit impur sait exactement à qui il a affaire. Au verset 7, d'une voix forte, il crie « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Il appelle Jésus par son nom, il connaît son identité profonde, fils de Dieu, et il est conscient de ce que cette rencontre va signifier pour lui, a priori. Mais Jésus ne se laisse pas impressionner, ni par les démonstrations de force, ni par cette interpellation, qui serait, on pourrait penser, déstabilisante. Si quelqu'un que vous ne croisez pas, que vous ne connaissez pas, vous croise et vous appelle par votre nom, en citant votre métier, ce que vous faites dans la vie, vous risquez d'être un peu troublé. Mais Jésus sait encore mieux que le démon ce qu'il a à faire. Il a toute autorité, il le sait. Même dans cette terre païenne, bien loin des traditions juives et de cette culture de l'ancienne alliance. Alors pour les lecteurs assidus de l'évangile que vous êtes, ou que je vous invite à être, le fait que le démon sache qui est Jésus, ça ne devrait pas vous surprendre tant que ça. Parce qu'on a lu une interpellation très similaire à Capharnaüm, je vous la remets. Donc ça c'était dans... Alors ça c'est... Non pardon, celle que je l'affiche là c'est l'actuelle. Et dans Marc 1 au verset 24, je vous la relis. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » De nouveau, son nom, Jésus de Nazareth, avec même l'origine, la ville d'origine, son identité, le Saint de Dieu, et tu es venu pour nous perdre, ils savent ce qui les attend. Et on pourrait même ajouter que, vous voyez que là, le démon parle au pluriel aussi. Que nous veux-tu? Ce qui rejoint aussi dans notre texte le fait que légion, ils sont plusieurs. Mais il y a encore d'autres passages. En Marc 3, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se jetaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Et il leur commandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Alors, le fait que les démons connaissent l'identité de Jésus, c'est en fait plutôt logique. Hein. Ce sont des êtres spirituels, ils connaissent donc les réalités spirituelles. Et on retrouve donc dans ce texte, dans le texte d'aujourd'hui, le même motif que dans les autres récits. Jésus leur ordonne de partir, et ils obtempèrent. Même motif, mais peut-être que vous aurez remarqué qu'il y a quand même une différence ici. Je vous ai mis sur la piste en vous mettant les passages un tout petit peu plus longs que ce que j'ai lu à l'oral. Vous voyez que dans Marc 1, Jésus lui commanda sévèrement « Tais-toi, sort de cet homme ». Marc 3, il leur commandait très sévèrement, il leur commandait très sévèrement de ne pas le faire connaître, pardon, je m'embrouille. Donc. Et donc ici, il leur impose pas le silence, c'est même tout le contraire. Il y a un dialogue qui s'engage avec les esprits impurs, c'est assez surprenant. Et même pire, quand tu as mis un dialogue, il y a cette requête des démons là qui disent « Non, mais s'il te plaît, ne nous envoie pas hors du pays, envoie-nous plutôt dans les ports. » Et Jésus accepte. C'est quand même vraiment surprenant. Alors, pour expliquer cet échange un peu inhabituel, je pense qu'il faut revenir au contexte particulier dans lequel nous nous trouvons ici. Alors déjà, pourquoi, tout au travers de l'évangile de Marc, Jésus impose le silence aux démons, mais aussi aux gens qui guérit et qui reconnaissent en lui le Messie. Ben, une des raisons, c'est probablement que Jésus se méfie d'une certaine attente, d'une certaine conception messianique des Juifs. Les Juifs attendaient le Messie, mais certains attendaient notamment qu'il chasse les Romains par la force. Mais sa messianité, sa victoire, ne prennent véritablement sens qu'à la croix. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Marc tient à nous faire voir. Sa puissance s'accomplit vraiment à la croix, et donc prudence en attendant. Le temps n'est pas encore venu. Mais ici, on est chez les païens, c'est des gens qui n'ont pas cette culture, et donc la question messianique ne se pose pas. Donc, pas besoin de cette prudence qu'il a chez les juifs, et il encouragera même l'homme qui a été délivré à parler et à annoncer, ce qui tranche aussi avec ce qu'on voit dans les récits de guérison en Galilée par exemple. Donc ça c'est déjà un point qui explique pourquoi il est pas en silence, mais je crois aussi que Jésus cherche à bien faire comprendre aux témoins de la scène de quoi il est vraiment question ici. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Vous l'aurez peut-être noté dans le texte, je peux vous remettre le début à l'écran. Il y a un certain flou. Il y a le pronom « il » qui est employé, mais on ne sait pas bien si on parle de l'homme, de l'esprit, ou même des esprits. Il y a même encore un flou entre le singulier et le pluriel. Et c'est pas évident de savoir exactement de qui on parle. Quand on dit qu'il vient se prosterner devant Jésus, est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est l'esprit? C'est permis de se poser la question. Alors, c'est pas précisé et je pense que cette confusion, elle est volontaire. À la fois parce que les habitants du lieu n'avait peut-être pas vraiment connaissance de ce monde démoniaque, et aussi parce que c'est tout simplement une ruse du diable d'agir à couvert, de nous tromper et de ne pas se laisser démasquer. Et pourtant, dans Marc 4, au verset 22, Jésus nous dit « Car il n'y a rien de secret qui ne doive être mis au jour, et rien n'a été caché qui ne doive venir au grand jour. » Et c'est fait partie des choses que Jésus accomplit ici. Il met en lumière. En demandant son nom à l'esprit impur, Jésus le force à se manifester et à décliner son identité aux yeux de tous. Et du coup, il dit en substance aux gens « Ce pauvre homme que vous voyez n'est pas un monstre, il est simplement sous l'emprise d'esprits mauvais. » Alors, revenons un instant maintenant sur cette demande assez bizarre des démons. Ça m'a posé question en étudiant ce passage. Comment comprendre cette supplication des démons au moment où ils sont chassés? Alors déjà, on peut voir que leur requête, elle est cohérente d'après leur nature même. Dans Matthieu 12, au verset 43, on nous dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les régions arides en quête de repos, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit « Je vais retourner dans mon logis d'où je suis sorti. » On voit dans ce petit verset que ces esprits, ces entités spirituelles, sans se lancer dans une description exhaustive, je ne risquerai pas à ça, mais ce sont des entités spirituelles par définition, donc des esprits, donc elles n'ont pas de corps, et donc elles cherchent un corps. Elles errent à la recherche d'un corps. Donc c'est logique qu'elles demandent asile ailleurs, en fait. Mais pourquoi Jésus accède à leur demande? Est-ce qu'il serait pris de pitié pour eux? Il me semble plutôt que cette demande, c'est une occasion que Jésus utilise pour manifester pleinement, encore une fois pour faire la lumière, sur le caractère destructeur de ces démons. Puisque, la suite, vous l'avez vu, hein, ils rentrent effectivement dans les ports comme demandé, et les ports sont précipités dans la mer. Donc les spectateurs de la scène pourront finalement retenir deux éléments. Malgré les apparences, cet homme, qui paraît comme une bête, est bien un homme comme les autres. Il était habité par une puissance de mort, mais il est, malgré tout, un enfant de Dieu, digne d'être aimé. Et puis, malgré les apparences, Jésus n'est pas un homme comme les autres. Il est le Fils de Dieu. Il manifeste par son autorité le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Les ténèbres sont chassées et les vies sont restaurées. Donc il n'y a rien qui finalement colle aux apparences à ce qu'on pourrait penser de prime abord. Alors, si vous êtes toujours là et encore attentif, j'imagine que vous et moi, enfin plutôt vous comme moi, on ne côtoie pas a priori tous les jours le genre d'individu qui est décrit dans ce texte. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Et on n'a pas tous les jours l'occasion d'observer ce genre de manifestation de grand spectacle. Ça existe, hein. Ça existe. Je tiens à préciser. Mais cet épisode peut nous rappeler, comme le dit Paul dans Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, contre des êtres de chair et de sang, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Il y a des versets de Colossiens qui ont été lus tout à l'heure qui reprennent cette thématique. Il y a des puissances rebelles à Dieu. Elles nous connaissent comme elles nous connaissent comme elles connaissent Jésus. Hein. Et elles savent exploiter nos faiblesses. Elles n'ont de cesse de polluer nos relations, de venir appuyer sur ce qui fait mal pour nous faire chuter. Rappelons-nous, lorsqu'une personne nous agace, nous blesse, nous fait du tort, que ce n'est pas contre elle que vous devez lutter, mais contre une puissance mauvaise qui joue avec elle et avec vous, et qui tente de vous faire sortir du chemin de paix et d'amour auquel Christ nous invite. Il y a des illustrations de ces possessions hein, dans l'Évangile. Pierre, tout disciple qu'il était au contact de Jésus, quand il s'oppose à Jésus, quand Jésus lui annonce qu'il va mourir, Jésus lui répond « Arrière de moi, Satan !» montre bien que c'est pas lui qui parle, c'est pas Pierre, enfant de Dieu, qui s'exprime. Ou Judas, en Jean 13, verset 27, au moment de, où il part livrer Jésus, le verset nous dit « Satan entra en Judas ». Alors soyons conscients que nous-mêmes, lorsque nous nous éloignons de Jésus, nous pouvons devenir à notre tour un lieu d'expression pour l'ennemi. Nous le laissons nous susurrer à l'oreille toutes sortes de mensonges sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu. Et donc toujours dans Éphésiens 6, Paul nous invite à nous armer du bouclier de la foi qui nous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Donc faire la distinction, comme Jésus le fait dans ce passage, entre l'esprit à l'œuvre dans la personne et la personne elle-même, aimée de Dieu, c'est vraiment une clé pour reconnaître en l'autre non plus un ennemi, mais un frère ou une sœur, et donc l'aimer comme tel. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, et nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. C'est ça la lutte qu'on a à mener, et c'est ça la lutte que Jésus mène dans ce passage. Sommes-nous donc prêts à nous rendre en terre païenne? Alors, je ne demande pas de partir en croisade, hein. Mais vous savez que nous sommes appelés à être lumière du monde. Alors, lorsqu'on parle du monde, on pense à quoi? À la société, à notre travail, peut-être à nos cercles d'amis ou d'activités, peut-être à nos familles, à toutes sortes de lieux dans lesquels nous évoluons et où nous sommes bien sûr appelés à témoigner de la lumière de l'Évangile. Mais ici, je vous rappelle qu'il est question de passer sur l'autre rive, de poser le pied en terre païenne, là où des esprits impurs particulièrement violents se plaisent à tel point qu'ils ne veulent pas être envoyés hors du pays, au verset 10. Et cela me semble être d'un autre registre que seulement être témoin là où le Seigneur nous a placés. C'est souvent une expression qu'on emploie, moi le premier dans la prière, être témoin là où le Seigneur nous a placés. Il y a aussi là où le Seigneur nous envoie. Et il nous envoie dans des endroits qui ne sont pas toujours plaisants. Il faut bien se rendre compte de ce que représente ce pays des Géraséniens pour les Juifs de l'époque. La présence de ces nombreux ports, je dis nombreux, hein, il est question de plus de 2000. C'est pas rien du tout. Hein. Il est question d'un homme qui vit dans les tombeaux, qui est nu, qui est plein de sang. C'est finalement pour eux le summum de l'impureté et de l'horreur. Hein. On peut même se demander s'ils ne regrettaient pas la tempête à ce moment-là. Mais si on veut transposer ça pour nous aujourd'hui, je pense que plutôt que d'imaginer les endroits familiers que nous connaissons et que j'ai listés, nos terres païennes à nous sont peut-être à chercher dans des endroits qui nous mettent beaucoup plus mal à l'aise, dans des endroits qui heurtent nos convictions, ou nos valeurs. Des endroits que nous évitons délibérément parce qu'on n'en partage pas les codes, parce que c'est effrayant, parce qu'on a peur de se salir. On peut penser à des endroits lugubres, à des endroits où l'argent, le sexe ou la violence gagnent en maître, mais je ne suis pas sûr qu'il est forcément utile de chercher si loin. Prends un exemple. N'avez-vous jamais vécu ce sentiment de malaise en allant simplement dans une autre église, par exemple? Une église qui aurait une interprétation de l'Évangile un peu différente de la vôtre. N'avez-vous jamais eu l'impression que si vous participiez à ce temps de culte inhabituel, si vous écoutiez cette conception du royaume de Dieu qui est prêchée là-bas, différente de celle qui est la vôtre, vous alliez vous compromettre ou vous souiller? J'emploie volontairement ce mot « souiller » parce qu'il est question d'impureté dans ce passage. Et je tiens à vous rappeler que l'impureté, elle n'est pas condamnable en soi. L'impureté, elle sépare de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est infiniment saint. Et donc, sous l'ancienne alliance, elle sépare de Dieu, mais aussi de la communauté, parce que cette impureté, elle est contagieuse. Rien que par le toucher, on peut se rendre impur si on touche quelqu'un d'impur ou quelque chose d'impur. Alors, il y a le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, qui montre qu'au quotidien, l'impureté, elle était inévitable. on y passe forcément à un moment ou un autre. Et quand je dis impureté, je ne parle pas que d'impureté sexuelle, hein. Il y a plein d'autres exemples. Je vous invite à aller relire ce livre qu'on boude généralement. L'impureté, elle est inévitable dans la vie quotidienne. Et donc, ben, il y a des rituels qui sont indiqués, qui sont proposés par Dieu pour laver ses souillures et pouvoir ainsi à nouveau se présenter devant Dieu. Parce que Dieu est saint et Dieu ne peut côtoyer l'impureté. Mais nous, frères et sœurs, nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance. Par Jésus, nous avons directement accès au Père. Alors aujourd'hui, quelle est la seule chose qui nous rende impurs et qui nous sépare de Dieu? Est-ce que c'est ce que vous mangez? Est-ce que c'est les personnes que vous côtoyez? Non, la seule chose qui nous rend impurs, c'est notre propre péché. C'est pas le monde extérieur, c'est pas le péché des autres, c'est nos propres fautes. Et donc, on est tous initialement impurs. Et donc, si on est impur, qui nous lave de ces souillures? On l'a chanté, on l'a dit tout à l'heure, on l'a même rappelé aussi par la Sainte Cène, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau versé une fois pour toutes. La mort de Jésus et sa résurrection, qui nous réconcilie avec le Père et qui nous permettent de nous tenir devant lui sans tache, lavés de toute souillure. À la seule condition de reconnaître nos fautes et d'accepter ce pardon qui est offert gratuitement. Je vous lis dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. C'est bien ce mot-là qui est employé. Il nous purifiera, donc nous rendra purs. Alors je pense que vous l'aurez compris, il n'y a aucun risque de se souiller en allant à la rencontre de l'autre, quel qu'il soit. Comme Jésus, nous pouvons donc nous laisser aborder par des personnes peu fréquentables en toute sérénité. Ce texte nous invite à ne pas craindre d'aller proclamer l'évangile partout, même dans les endroits qui nous effraient le plus, a priori. Vous êtes encore avec moi? Il est temps de regarder quelles sont les conséquences de ces événements. Nous avions un homme possédé, il était visiblement gênant. Et c'est assez surprenant, parce qu'il était probablement bien connu, on cherchait à le lier, donc il posait problème, il s'en prenait probablement aux biens, aux animaux, aux personnes, on ne sait pas bien, mais il faisait des dégâts. Il criait nuit et jour. On devait probablement l'entendre de loin, en permanence. On imagine que personne ne souhaite un tel voisinage. Et bien pourtant, malgré le fait que sa guérison impressionne et qu'elle doit du coup arranger quand même la situation, personne ne semble se réjouir de l'issue de cet épisode à part le démoniaque lui-même. Quelle est la réaction des gens des alentours une fois qu'ils ont constaté les faits? Je vous remets le passage. Ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Verset 17. Pourquoi donc? On pense alors... On a l'habitude des pharisiens qui s'opposent à Jésus, donc on penserait assez naturellement qu'ils étaient hostiles à Jésus, qu'ils lui en voulaient. On peut facilement imaginer que les porcs qui ont tragiquement disparu, ben, ces 2000 porcs, ils avaient bien des propriétaires, des gens qui en tiraient un revenu, et que du coup ils sont contrariés de cette perte. Et puis même si le démoniaque a l'air d'aller mieux, les affaires sont les affaires, et généralement on n'apprécie pas trop qu'un étranger vienne troubler l'ordre établi. Mais en regardant plus attentivement, on peut remarquer que le verbe « supplier », « parakaleo » en grec, est utilisé 4 fois dans ce texte. Alors ça, on ne le voit pas forcément dans nos traductions, mais si vous regardez le verset 10, « il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays ». J'espère que j'ai bien mis la même traduction. Bon, peu importe. au verset 12, « et les démons le prièrent », toujours le même verbe, « parakaleo ». Au verset 17, ils se mirent à supplier, parakaleo, Jésus, de quitter le territoire, donc ça c'est celui qui nous intéresse. Et puis à la fin, enfin le verset suivant, le démoniaque lui demanda, parakaleo de nouveau, la permission de rester avec lui. Je crois que c'est bien mis supplier, ce que j'ai mis à l'écran. Donc ce mot peut être effectivement traduit par supplier, mais aussi par prier, par solliciter, par demander. Mais c'est l'idée de... apaiser par supplication. Par notre supplication, on recherche un apaisement. C'est aussi consoler. D'ailleurs, c'est un mot qui n'est pas très loin de paraclète, le consolateur, l'Esprit Saint, à l'évangile de Jean. Donc si cette supplication, elle demande un apaisement, c'est difficile de l'interpréter comme de l'hostilité. Il s'agit plutôt d'une demande insistante, d'une prière pour obtenir un soulagement. Mais alors un soulagement de quoi? De quoi veulent-ils être soulagés, ces gens? Alors je vous propose ma lecture, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ce que j'en ai compris. La confrontation directe de Jésus avec cet esprit impur les met face à la réalité dérangeante de l'existence d'un monde démoniaque. Alors je ne sais pas quelle était la culture de ces personnes, je ne sais pas si elles admettaient l'existence d'entités spirituelles, je ne sais pas comment elles comprenaient cela, mais en tout cas aujourd'hui je constate que nos contemporains se rangent principalement en trois grandes catégories, allons-y à grands traits. Pour les premiers, en bon rationnel matérialiste, tout ça n'est que fantaisie et fruit d'imagination, et ça c'est évidemment une conception très occidentale, moderne, scientifique presque, et je pense que cette conception elle arrange bien l'adversaire, parce qu'il n'a même plus peur d'être démasqué. Il n'existe plus, disparu des radars. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, qui est je pense plus familière à nos frères et sœurs d'Afrique ou d'Asie notamment, l'existence d'entités spirituelles, elle est pleinement admise. Elle fait partie du quotidien, elle fait partie de notre monde, et on en a peur généralement. Donc on utilise des artifices pour nous en protéger, des gris-gris et autres pratiques, pour nous attirer leur faveur, quand on ne pactise pas directement avec eux, avec tous les dangers que ça comporte. Et puis il y a une troisième catégorie, c'est les personnes qui tombent carrément dans une fascination dangereuse et qui peut les amener à se lier avec ces esprits, et donc à se mettre complètement sous leur coupe, c'est ce qu'on appelle en Occident l'occultisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, à travers ce que Jésus accomplit, il répond à chacune de ces trois conceptions. Pour ceux qui nient l'existence de ces entités, Jésus contraint les démons à se manifester et même à décliner leur identité. Donc c'est plus possible, dans le cas de notre récit, là, de plaider la névrose, la maladie psychiatrique ou que sais-je. Je ne suis pas en train de dire que toute maladie psychiatrique est une possession, entendons-nous bien, c'est très prudent là-dessus. Mais, malgré tout, la possession existe. Pour ceux de la deuxième catégorie qui admettent l'existence mais qui en ont peur, Jésus oppose sa tranquillité, son assurance. Il ne se laisse pas du tout impressionner, il ne se laisse pas manipuler. Et puis, pour ceux qui entreraient dans le jeu de ces esprits, dans une quête morbide de puissance, Jésus offre un aperçu de ce à quoi cela mène. Et puis, surtout, il oppose son autorité. Aussi puissante, aussi violente soit cette légion d'esprits impurs, Jésus les chasse d'une simple parole. C'est aussi une vision d'espérance pour ceux qui seraient enfermés là-dedans, bien sûr. Donc ainsi, quelle que soit la situation des gens du pays de Gérasénien, je ne sais pas je ne sais pas s'ils sont dans la catégorie 1, 2 ou 3, mais ce qui est certain, c'est que Jésus bouleverse leur système de croyance et il les met dans un profond inconfort. Et donc, plutôt que de remettre en cause ce à quoi ils croient, c'est beaucoup plus facile de faire comme si cet épisode n'avait pas existé et d'éviter qu'il se reproduise en suppliant Jésus de partir. C'est la lecture que je vous propose ce matin. Et pour terminer, remarquons quand même que Jésus a bel et bien purifié le pays, cette région. Les esprits impurs, ils entrent dans les ports et comment ils finissent? Tous ensemble engloutis dans la mer. On reconnaît là une symbolique qu'on connaît bien, celle qui est employée dans le déluge ou bien dans la mer rouge avec Pharaon, qui montre un anéantissement total. Autant des esprits que des ports. Le démoniaque, lui, il est délivré, il est dans son bon sens. Il n'ira plus loger dans les tombeaux, il est vêtu, il arrêtera de se blesser. Donc l'action de Jésus a littéralement purifié cet endroit en intégralité. Tout ce qui était susceptible de heurter les Juifs en termes d'impureté a été lavé. Et on assiste donc à une première proclamation de la miséricorde de Dieu dans ce pays païen. Et bah, il se trouve que cette proclamation dérange, on demande à Jésus de partir. Et que fait Jésus? Eh bien, il va mettre en pratique la recommandation qu'il donnera plus tard à ses disciples, quand il les envoie en mission en Marc 6, et c'est une recommandation qui vaut pour nous, hein, je vous lis Marc 6 à partir du verset 7. Jésus fait venir les 12, et il commença à les envoyer deux par deux, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur disait, « Si quelque part vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si une localité ne vous accueille pas, et si l'on ne vous écoute pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Ils auront là un témoignage. » Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils faisaient des onctions d'huile et beaucoup de malades, et ils guérissaient. Vous voyez, je relis ce verset 11. Si une localité ne vous accueille pas et si l'on ne vous écoute pas, Jésus ne dit pas allez-y par la force, insistez, ils finiront bien par comprendre. Non, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Ils auront là un témoignage. Jésus n'insiste pas. Il secoue la poussière de ses pieds, remonte dans la barque, sans discuter. Le royaume de Dieu ne s'impose pas. Jamais. Alors nous aussi, quand le Seigneur nous invite à passer sur l'autre rive, ayons cette audace d'aller là où ce n'est pas forcément confortable. Soyons prêts à nous confronter à des situations étranges, repoussantes même, lorsque c'est nécessaire. Sachons démasquer les tromperies du diable qui cherche à faire passer notre frère ou notre sœur pour notre ennemi. Nous sommes littéralement des ambassadeurs de Christ. Et tout comme lui, nous sommes des enfants du Dieu Très-Haut. Et le monde des ténèbres le sait. Ce n'est donc pas à nous d'avoir peur, mais à lui. Avançons donc avec assurance, sans s'imposer. Amen. Amen.